BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Être bon en télétravail, eh bien figurez-vous que c'est une compétence. Vous avez l'impression qu'être hyper efficace chez vous entre quatre murs, c'est donné à tout le monde. Eh bien non, c'est un vrai plus. On va en parler avec Arnaud Cartier, directeur général de HR Consultancy Partner. Et puis on va parler des jeunes diplômés dans la data, ces pépites que tout le monde veut attirer. Vous pensez peut-être que c'est la mission de l'entreprise qui les intéresse? Eh bien pas du tout, ils veulent le détail des postes, c'est ça qu'il faut leur montrer pour les attirer. On en parlera avec Arnaud Gilberton, cofondateur du cabinet de conseil en management Idoco. Il a co-réalisé une étude avec l'ESSEC. Et puis comment gérer les absences? Vous savez, les cas contacts, c'est un cauchemar pour les ressources humaines. Eh bien la gestion de l'absence au bureau, ça peut s'externaliser. On va en parler avec Julien Vernet, directeur de conseil chez Layton. Happy Boulot le mag, c'est parti.
BFM Business Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et on va parler télétravail avec Arnaud Cartier, directeur général de HR Consultancy Partner. Ça appartient au groupe Randstad. Bonjour, merci d'être avec nous. On va pardonner les chiffres du télétravail qu'on finit par tous connaître et puis ça change de semaine en semaine. Est-ce qu'il y a un autre sujet aujourd'hui, quand on est consultant en organisation, en management, que le télétravail?
Bonjour Laure Clauzier. Aujourd'hui, le télétravail, c'est le vrai sujet, surtout sur les questions de management. Donc, il est encore trop tôt pour parler de l'adaptation des organisations autour du télétravail, mais tout le monde se pose des questions. Les salariés, les managers, les entreprises. Donc, le télétravail, c'est le gros sujet aujourd'hui quand on parle management.
On cherche à savoir quoi, ce que font bien les autres, ce qu'ils font pas bien, d'avoir un benchmark de télétravail.
Alors, les boîtes, la première question qu'elles se posent, c'est est-ce que c'est légal? Est-ce que je fais bien toutes les questions de sécurité, le dialogue social, etc. Et là-dessus, la législation permet quand même un grand champ de possibilités. Donc du coup, c'est la première question. Ça libère un petit peu tout le monde de dire, bon, au moins légalement, je fais bien. Ensuite, la question d'après, c'est est-ce que mes salariés vont bien? Certains sont contents d'être en télétravail. Pour certains, c'est la plaie. Du coup, comment est-ce que, en tant que manager, en tant qu'organisation, en tant qu'employeur, je fais en sorte que mes salariés aillent bien dans ce contexte de télétravail? Et attention, je préfère parler de travail à distance, parce que le télétravail, c'est quelque chose auquel on va réfléchir dans la durée, etc. Pour l'instant, on est plutôt dans la gestion d'une crise avec du travail à distance. C'est pas un peu une question
si
de sémantique.
Si vous voulez pas dire le mot télétravail, vous allez être très seul quand même, hein, parce que c'est assez répandu. Par contre, vous mettez le point sur quelque chose de très important, l'inégalité entre les salariés. Il faut désormais que l'entreprise fasse du cas par cas avec ses salariés, alors qu'en fait, elle voulait être égalitariste avec l'ensemble de son corps social. C'est compliqué, ça, à gérer, d'écouter chaque petite problématique humaine.
Cas par cas, il faut quand même donner un cadre. Donc, l'entreprise ne va pas vouloir prendre en compte la situation de Monsieur Dupont, de Madame Durand, les enfants, la taille de l'appartement. Ça va pas être possible d'aller jusqu'au cas par cas. Donc on va aller vers quoi ? On va aller vers de la souplesse quand même. Donc aujourd'hui, on a eu du télétravail à 100% avec un peu de dégâts. On est là sur quelque chose
de plus souple. Pour l'entreprise et pour le salarié.
Et pour le salarié et pour le manager qui est au milieu et qui a eu du mal vraiment à s'emparer du sujet, même si maintenant ça va mieux. Et dialogue social aide aussi, il y a eu beaucoup de bonne volonté. Mais aujourd'hui, on va aller vers quelque chose de plus pérenne et on voit vraiment qu'on va aller vers quelque chose de souple. C'est-à-dire ne pas imposer un télétravail à 100%, qui est très difficile, mais aller vers une, deux journées de télétravail dans la semaine, voire peut-être un petit peu plus. L'employeur a besoin de donner un cadre, donc comment. Le manager, lui, va dire « Ok, je vais prendre en considération les situations personnelles ». L'entreprise va dire « J'ai besoin d'organiser les choses ». Le salarié voudrait qu'on ne pense qu'à lui, évidemment. Il a ses situations personnelles à gérer. Donc, on se cherche encore.
C'est surtout que renvoyer le salarié totalement chez lui, avec le financement de son bureau, de ses charges, de son chauffage, de tout, évidemment, ça pose des questions dans l'entreprise. Et c'est forcément du cas par cas. Vous dites « Il faut un cadre », mais l'entreprise est obligée d'aller voir des problématiques personnelles.
Oui. Pour le salarié aujourd'hui, le ressenti est quand même celui d'un bénéfice. Alors attention, on ne parle pas de tous les salariés, on parle des postes télétravaillables, et du coup on parle du tertiaire, et du coup on parle beaucoup des cadres. Alors, cette précaution prise, pour ces populations-là, c'est quand même beaucoup un soulagement de pouvoir dire « Enfin, je ne suis pas obligé de me payer aujourd'hui les transports, etc., tous les jours, je peux même envisager de déménager, des choses comme ça ». Ça ouvre quand même beaucoup de choses positives. Pour certains, il y a quand même tout le stress qui va avec. Et aujourd'hui, on est encore dans un contexte sanitaire qui oblige les entreprises ou qui recommande le télétravail. Mais pour ceux pour lesquels c'est une contrainte, la possibilité existe quand même de plus en plus de retourner dans l'entreprise. Et on peut imaginer qu'avec la fin de la crise sanitaire...
Mais on ne trouve plus grand monde pour défendre le 100% télétravail. Hein.
Non, ça... on en revient. On en revient et on, je serais curieux de voir comment les grandes entreprises américaines qui ont basculé dans le 100% télétravail vont pouvoir le gérer dans le long terme. C'est compliqué. C'est compliqué de gérer des équipes. C'est compliqué de gérer... Il faut vraiment être très organisé en termes de process et très mûr comme organisation pour être 100% télétravail. On n'en est pas encore là.
Vous avez fait une étude qui vient de Randstad Smart Data. 100 000 offres mentionnent aujourd'hui le télétravail comme une compétence recherchée. Ça veut dire quoi être bon en télétravail ?
Alors, c'est deux fois plus qu'avant. Hein. C'est intéressant ce chiffre dans les offres. Maintenant, le mot télétravail apparaît deux fois plus et Smart Data...
Donc, être en capacité de travailler chez soi, ça devient un critère de recrutement.
Ça devient un critère de recrutement. Ça devient aussi un critère d'attraction pour les employeurs. Parce que le fait de mettre télétravail dans une offre fait qu'on devient un employeur intéressant par rapport à d'autres. C'est quoi les compétences recherchées ? Ben, on est enfin sur les soft skills. Et nous, en tant que consultants, forcément, et les RH, depuis des années et des années, se battent pour dire arrêtons de reconnaître les seules compétences techniques, reconnaissons enfin les compétences comportementales, humaines et autres. Et c'est ça le télétravail.
Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable, être autonome, faire des feedbacks quand même ?
J'ai plus mon équipe alignée devant moi tous les matins au garde à vous. Donc comment je fais ? Alors,
ça, c'est le manager.
Côté manager. Je vais commencer par le manager, après je parlerai du salarié. Côté manager, comment je fais pour piloter ? Comment je fais pour être sûr qu'il y a de la performance, il y a de la production ? Il faut savoir faire confiance, pour le coup. Il faut pouvoir communiquer des choses très précises. Il faut arriver à animer une équipe à distance. Il n'y a plus la machine à café, il n'y a plus les pauses déjeuner, il n'y a plus les réunions, on ne peut plus parler à tout le monde directement. Donc, ces soft skills-là, qui étaient quelque part encore un peu un vain mot dans la définition des managers, maintenant, elles sont obligatoires avec le télétravail. Tant mieux, ça nous oblige à faire ce pas. Côté salarié aussi, il faut que je puisse m'organiser seul, il faut que je sache où chercher des informations, il faut que je coopère avec les autres. Et tout ça sans avoir autour de moi un collectif de travail. Donc on va aller chercher des qualités humaines, des qualités celles que je viens de citer.
Donc
par
l'autonomie,
exemple.
Par exemple, devient une valeur sacrée, quoi. Mettre en avant.
Oui, ça devient indispensable parce que quelqu'un qui pouvait se débrouiller, je ne sais pas, sur un plateau, un centre d'appel, en écoutant les autres, en interpellant son manager, etc., tout seul chez lui, il ne va pas faire un call pour dire...
Mais ça veut dire que quand vous faites votre CV en tant que salarié, vous pouvez très bien mettre dans vos compétences fort en télétravail.
C'est encore un peu tôt.
Par contre, vous pourriez mettre autonome...
C'est ça. C'est ce qu'on va chercher aujourd'hui. Alors, vous savez, beaucoup de gens mettaient déjà ces qualités-là parce qu'elles étaient bien vues. Mais il n'y avait pas la sanction du télétravail. Alors que maintenant, avec le télétravail, si on a menti sur son CV et qu'on a dit « je suis très autonome, je suis très communicant, je suis très coopératif, je résiste bien au stress et je suis habitué à des environnements ambigus », ça va être très très vite visible si on a menti sur son CV. Pour le
Alors, il faut être quoi aussi ? Capable de faire des zooms, pouvoir enchaîner les conf-calls toute la journée ?
Alors, on n'est plus dans une soft skills, on est vraiment dans une compétence technique.
Oui, c'est une hard skills maintenant, c'est enchaîner les conférences.
Les outils se sont adaptés et on parle de postes où, de toute façon, les collaborateurs sont plutôt amenés à savoir le faire. Donc, ce n'est pas un critère discriminant aujourd'hui. On verrait pas sur un recrutement quelqu'un qui n'est pas pris parce qu'il ne sait pas faire de zoom.
Sur le télétravail, même si personne ne va aller au 100%, on ne reviendra jamais en arrière.
Je pense qu'une étape est franchie. Il y a très peu de boîtes qui disent « ça s'est tellement mal passé que dès le 15 janvier, je veux tout le monde aligné devant la porte. »
Pourtant, on a vu là, des entreprises à qui il a fallu forcer la main pour pousser au télétravail pour des raisons sanitaires, mais qui ne voulaient pas, hein, qui faisaient tout pour pouvoir avoir une continuité au bureau.
Le fait que la résistance était normale parce que les employeurs ne l'avaient pas vécu, maintenant qu'ils l'ont vécu, que les salariés l'ont vécu, ça va être très difficile de revenir en arrière. On est parti durablement pour un ou deux jours de télétravail. 700 accords depuis le début de l'année dans le domaine du télétravail au sein des entreprises.
On le rappelle, il faut un accord, il faut une discussion, du dialogue social en interne pour arriver à un accord sur la question du télétravail. Qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on finance pas ? Il faut que ça soit très clair. C'est pas juste on renvoie les gens chez eux.
Ça a aussi été une expérience positive de dialogue social.
Oui,
on l'a vu avec l'ANI du 26 novembre. Et aussi dans le dialogue social dans l'entreprise. Face à l'urgence, tout le monde a fait preuve de bon sens. Les abus ont été très rares, et dans un sens et dans l'autre. Et donc, ce dialogue social a existé et il est plutôt positif. Oui.
On va faire le quiz RH. Vous me dites stop ou encore ? Les CV classiques, on continue ou pas ?
Encore.
Les horaires, on continue ou pas ?
Encore.
Les tests de personnalité, on continue ou on arrête?
On continue.
Plein, on en fait plein. Les Zoom et les Teams, on continue ou on fait une petite pause dans la journée quand même?
Ce serait bien de ne pas faire que ça.
Les team building?
Compliqué à distance, mais c'est nécessaire.
Il y a une nouvelle offre qui émerge sur les team building à distance, avec des cafés, des trucs. Il faut continuer quand même.
Oui, il faut apprendre aux managers à animer, appelons ça team building ou autre, mais il faut que les managers apprennent à animer à distance. Et ce n'est pas facile.
Les Chief Happiness Officer, on continue ou on arrête?
On arrête dès le départ.
On commence pas, c'est ça?
Il faut que le travail ait du sens, il faut que l'organisation permette aux gens de s'épanouir, et il ne faut pas mettre des choses cosmétiques comme ce genre de choses. J'ai jamais été pour.
Le coaching?
On continue.
Est-ce qu'on en met pour tout le monde? Il y a une vraie démocratisation sur le coaching qui est en train de se passer.
Oui.
C'est plus uniquement pour les cadres haut de gamme ou les chefs. Hein. Est-ce que c'est une bonne chose?
C'est une bonne chose. C'est toujours très utile d'avoir un miroir, de prendre de la hauteur, de s'interroger sur la façon dont on communique. Donc oui, on continue.
LinkedIn. Quelle est votre relation avec LinkedIn? Vous y êtes? Vous répondez? Vous y êtes souvent? Vous postez?
Alors j'y suis, je poste un peu. C'est un outil intéressant pour ce que c'est-à-dire de la mise en réseau. C'est pas un outil social, c'est pas un outil de com, même si ça le devient, et c'est un peu une déviance. C'est un outil de mise en relation, il faut l'utiliser comme tel, notamment pour du recrutement.
Mais par exemple, vous, si on vous écrit sur LinkedIn, est-ce que vous répondez? Vous regardez votre boîte de réception?
Oui, je la regarde.
Mais vous répondez pas?
Je réponds pas à tout le monde parce qu'il y a aussi beaucoup de publicité.
Il y a beaucoup de publicité, attention quand même, hein, parce que sur ce canapé, les gens répondent. Hein. Alors, boîte de réception LinkedIn, très peu disent qu'ils ne répondent pas. Il va falloir vous y mettre, hein. c'est obligatoire.
J'y verrai.
Juste pour l'image. Merci d'avoir été avec nous, Arnaud Cartier, directeur général de HR Consultancy Partner, le cabinet de conseil en ressources humaines du groupe Randstad. Et nous, on va parler des jeunes et du recrutement dans la data, les pépites, quoi.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler des jeunes diplômés dans la data, les pépites. Comment faire pour les attirer dans vos filets? C'est peut-être ce que vous vous demandez en tant qu'entreprise. On va vous expliquer tout ce qu'il faut pour qu'ils viennent directement à vous. On est avec Arnaud Gilberton. Bonjour, cofondateur du cabinet de conseil en management Idoco. Vous avez co-réalisé une étude avec l'ESSEC. Vous avez posé la question à ces jeunes sur ce qu'ils veulent dans l'entreprise. Et alors, ce qu'ils veulent, c'est des trucs intéressants et des perspectives, en gros.
C'est ça. Alors, les jeunes dans la data aujourd'hui, les jeunes diplômés, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est à développer leurs compétences. Et donc, ils sont avant tout intéressés par les aspects techniques des projets qu'on peut leur proposer. Et on voit qu'il y a parfois un peu une incompréhension par rapport aux entreprises, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui cherchent à attirer les jeunes diplômés de la data avec la mission de l'entreprise, une vision, de la rémunération, des conditions de travail. Mais en réalité, nous, les jeunes qu'on a à l'ESSEC, alors on a un master qui est spécialisé en data science et puis une formation à travers une chaire sponsorisée par Accenture qui permet justement de former les jeunes diplômés de l'ESSEC à la data. Ce qui les intéresse, c'est de développer leurs compétences sur des projets techniques intéressants avant tout.
Donc là, il y a quand même un problème d'adéquation entre l'entreprise qui croit que avoir une mission ou mettre en avant la manière dont on travaille chez elle, etc., c'est un argument d'attractivité, et en fait non.
Alors, ça peut être un argument d'attractivité, bien sûr, mais je pense...
Mais est-ce que c'est presque induit? Parce que quand on faisait des études sur les jeunes il y a quelques années et qu'on leur disait s'intéresser au développement durable, est-ce que vous trouvez que c'est bien? Ils étaient là, attendez, les gars, ça fait 10 ans, ça. Si vous en êtes encore là, c'est que c'est très inquiétant.
Alors,
c'est induit, quoi.
C'est induit, et tous les jeunes ont envie de travailler dans des entreprises à mission, dans des entreprises intéressantes. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour les profils de data scientists, donc vraiment les spécialistes de la data, c'est que c'est des jeunes qui sont passionnés par leur métier. Parce que la data, c'est quand même des sujets qui sont très techniques, qui demandent des compétences assez pointues en statistiques, en maths. Donc c'est des jeunes qui travaillent vraiment sur des dossiers techniques et donc qui sont passionnés par leur métier. Et donc pour eux, ce qui est important, c'est vraiment de développer leurs compétences, d'autant qu'aujourd'hui, le secteur de la data se développe énormément. Donc ce que voient beaucoup de jeunes, c'est qu'il y a énormément de complexité dans les projets data, et ce qu'ils attendent de leur entreprise, c'est d'aller dans des environnements où ils peuvent justement se confronter à des projets qui sont ambitieux, qui sont complexes, dans lesquels ils vont développer des compétences techniques que ensuite ils pourront revendre
donc
ailleurs.
Ça veut dire, c'est vraiment la description du fondement du job, qu'est-ce qu'on va faire au quotidien, qui on va rencontrer, avec qui on va discuter, c'est ça qu'il faut mettre en avant.
C'est ça qu'il faut mettre en avant. Je pense que ce qui est important pour attirer des jeunes de la data, c'est de leur faire rencontrer leur manager, donc de leur faire rencontrer des spécialistes de la data. et de leur montrer aussi qu'ils vont pouvoir travailler auprès de spécialistes qui connaissent bien les sujets data et de leur parler du contenu de leur job. Et
donc alors, ils veulent un chef waouh, quelqu'un qui vraiment près de qui ils vont apprendre quelque chose.
Tous les jeunes veulent un chef waouh et je pense que tous les jeunes ont surtout besoin d'un chef qui soit très compétent, qui puisse les former. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi sur des campagnes de communication, sur des promesses employeurs, et c'est très bien et c'est très positif, mais dans le fond, ce qu'attendent les jeunes, c'est vraiment d'être formés, c'est de développer leurs compétences, c'est de bien connaître l'environnement dans lequel ils vont arriver au sein de l'entreprise. Donc c'est ça qui est important. Et du coup, parfois, voilà, on sent, nous, dans nos étudiants à l'ESSEC, que c'est vraiment ces arguments-là qui vont aller les attirer, qui vont aller les capter. Et donc, du coup, oui, ça demande pour eux d'être en lien avec des managers data qui puissent leur présenter des projets.
Est-ce que ça veut dire que sur des annonces qu'on pourrait passer en tant qu'entreprise, on pourrait mettre « vous allez travailler avec machin qui est une star du secteur ». Est-ce que le nom du manager peut être un critère d'attractivité ?
Alors, ça peut être un critère d'activité, mais je pense que surtout, le vrai critère d'activité, c'est de parler des projets. Donc c'est de pas hésiter.
Dans le détail.
Je pense que c'est de pas hésiter pour des jeunes data scientists à vraiment leur présenter dans les annonces le type de projet sur lesquels ils peuvent travailler pour leur montrer à la fois que c'est des projets techniquement complexes mais aussi des projets qui servent l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans des projets qui servent à récupérer de la donnée sans trop savoir quoi en faire, mais dans des projets où vraiment on va exploiter cette donnée.
La place des outils est très importante.
Ouais, c'est ça. Donc à la fois les outils et puis l'exploitation de la donnée au service du business, au service d'une stratégie avec un plan ambitieux pour la donnée.
La question du salaire, elle est à quelle place ?
La question du salaire, elle est importante, mais elle est loin d'être déterminante. Dans l'étude qu'on a...
On est sur des jeunes diplômés.
Et c'était pour nous une surprise. Alors, comme ces jeunes diplômés sont très demandés aujourd'hui, ils savent que de toute façon, les niveaux de rémunération seront des bons niveaux de rémunération, mais c'est vraiment pas le premier critère. Le premier critère est à nouveau vraiment sur le métier. C'est un critère qui peut se développer quelques années plus tard, c'est-à-dire après un premier poste, après un deuxième poste, avec une expertise solide. Là, on peut se rendre compte que le critère rémunération remonte. Mais pour des tout jeunes diplômés, non, c'est pas du tout le premier critère à la rémunération.
Donc ça veut dire qu'il faut non pas dire la mission, il faut vraiment aller dans le détail de ce qu'on explique, faire rencontrer quasiment presque les collègues, l'environnement de travail.
Oui, c'est ça, faire rencontrer l'environnement de travail, les collègues, et puis surtout faire rencontrer des spécialistes de la data qui sont déjà au sein de ces entreprises et qui vont pouvoir réellement parler des projets et leur donner aussi de la garantie que ces jeunes en arrivant vont travailler sur des cas concrets, qui vont être des cas intéressants dans lesquels ils vont pouvoir développer de l'expertise sur des sujets complexes.
Mais ils sont dans l'anti-bullshit jobs, en fait. Ils veulent vraiment qu'on leur montre qu'ils vont servir à quelque chose.
C'est ça. Ils sont dans l'anti-bullshit job, ils sont un peu dans l'anti-promesse employeur. Je pense aujourd'hui aussi qu'il y a énormément de jeunes qui sont un peu lassés par les grandes promesses des entreprises et ces grandes promesses employeurs avec ces plaquettes que tout le monde a vues. Et donc, du coup, ils cherchent du concret. Les jeunes diplômés de la data, c'est des gens qui sont vraiment dans le concret, qui aiment bien leur passion, c'est de résoudre des problèmes complexes, faisant intervenir des questions statistiques. Donc du coup, ils ont besoin de savoir que c'est réellement ce qu'ils vont faire dans l'entreprise. Et c'est le concret qui les séduit, c'est pas les paillettes.
C'est bien, mais ça va complètement à l'encontre de ce que mettent en place aujourd'hui beaucoup d'entreprises en termes de marque employeur pour attirer notamment les jeunes de la data. Donc peut-être que ça
c'est pour ça qu'on a fait cette
bouger
étude.
Un peu les lignes. Merci beaucoup.
Merci,
Arnaud Gilberton, d'avoir été avec nous, cofondateur du cabinet de conseil en management chez Idoco. On va parler absence. Bah oui, les cas contacts, c'est compliqué à gérer dans l'entreprise.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business case.
On va parler des absences dans l'entreprise. Et oui, parce qu'il y a aussi ces salariés qui ne sont pas là. Parfois, ils sont malades à cause du coronavirus. Parfois, ce sont juste des cas contacts qui attendent chez eux d'avoir le résultat d'un test. Mais en tout cas, c'est une nouvelle problématique dans les entreprises et un nouveau casse-tête pour les DRH. On est avec Julien Vernet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du conseil chez Layton. L'absence, c'est devenu vraiment un travail à plein temps pour une partie des RRH et des DRH.
Alors, c'est déjà un plein temps avant le confinement, avant les confinements, entre guillemets. Sauf que depuis le 16 mars, on assiste à un vrai tsunami d'absence. Tous les salariés, de nombreux salariés sont absents pour des arrêts ordinaires, type garde d'enfants, salariés à risque, chômage partiel. Tout ça, ça crée un flux incroyable pour les gestionnaires RH qui n'ont pas vu d'augmentation de leurs effectifs et qui ont dû depuis le 16 mars gérer tous ces va-et-vient des salariés qui sont absents du 16 au 20 puis du 21 au 23, que ce soit sur des gardes d'enfants ou salariés à risque, ce qui occasionne un flux administratif qui est colossal, et la question qui se pose, c'est est-ce que les entreprises ont pris la mesure de ces tâches pour mieux s'organiser pour demain.
Alors clairement, on a vu pendant le confinement, moi j'ai beaucoup dit, on va revaloriser les postes RH, on va enfin comprendre que c'est important, les gestionnaires de paie, ceux qui gèrent les absences, etc. Mm-hmm. Ben, 6 mois plus tard, il ne s'est quand même pas passé grand-chose. On n'est pas sur une perspective d'embauche dans les secteurs des ressources humaines, donc comment on fait ?
Alors déjà, le constat, c'est qu'on a vécu un vrai tsunami d'absence pendant le confinement. Aujourd'hui, on est dans le deuxième confinement. Il y a toujours ce flux d'absence qui a diminué sur les arrêts courts. Mmh. On a vu une nette baisse quasiment de 80% des arrêts courts sur la période. En revanche, on observe une hausse importante sur les arrêts longs. Donc les entreprises aujourd'hui doivent s'organiser pour gérer tout ce flux. Et c'est pour ça qu'on fait appel maintenant sur le marché, sur l'externalisation de la gestion de l'absence pour mieux à s'accaparer du flux entrant sur toutes ces absences dans les entreprises.
Mais alors, ça veut dire quoi ? Avoir un pool d'intérimaires prêt à remplacer n'importe quel poste ? Avoir des pigistes, comme on dit dans le journalisme,
alors,
c'est quoi ?
Aujourd'hui, c'est pas vraiment des pigistes ou des intérimaires, c'est un service d'experts. Mm-hmm. Un service d'experts, ce sont des entreprises comme Layton qui ont développé des process, des outils, des logiciels pour pouvoir intégrer l'ensemble de ces absences. En fait, l'absence aujourd'hui externalisée, c'est un vrai bénéfice pour l'entreprise et donc le service RH, mais également pour les salariés. En fait, en externalisant l'absence il y a quelques années au sein de Layton au profit des entreprises du CAC 40, on a remarqué que ça facilitait le travail des services RH, mais on s'est rendu compte qu'on créait beaucoup plus de proximité pour les salariés. Donc c'est vraiment l'externalisation, c'est l'humain.
Mais ça veut dire quoi, externaliser l'absence ? Ça veut dire je ne suis pas là, je me tourne vers Layton au lieu de me tourner vers mon DRH ?
Exactement, on s'adresse à un service qui s'apparente être ce qui est un service RH complémentaire, qui est le bras droit des services RH, ce qui permet aux services RH de traiter les tâches régaliennes. Régaliennes, c'est ce qu'on appelle la paie, les entrées-sorties, les relations sociales. Et en leur libérant de cette tâche liée à l'absence, on leur permet de leur libérer un temps qui est précieux, mais également d'affecter des équipes externalisées qui ne sont consacrées qu'à ça et qui permet une relation de proximité avec chaque salarié.
Vous dites on n'a pas le temps en interne. En fait, le sujet est devenu tellement important sur l'absence qu'on n'a pas le temps en interne de gérer ça. Vaut mieux des gens qui le font totalement, qui ne font que ça, et vous arrivez à avoir une relation sociale, parce que dans l'absence, il y a quand même un lien humain avec l'entreprise. Alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être géré par un service autre ? On perd le lien avec l'entreprise ?
L'externalisation, c'est l'humain au service de l'humain. Ça permet d'une certaine manière, quand un salarié est absent, de quoi il a besoin ? Il a besoin d'écoute et de disponibilité. Mm-hmm. Quand un service RH se trouve être débordé par les tâches régaliennes liées à ce qu'on a dit sur l'appel, les entrées-sorties, elle n'a pas le temps de répondre à toutes les sollicitations des salariés. Le service externalisé, lui, c'est sa tâche prioritaire. Donc, il est en souffrance. Le fait qu'il soit en souffrance, c'est un moment où, justement, il faut être là. Un salarié qui est malade, c'est pas une partie de plaisir. Il a besoin d'être accompagné, que ce soit dans des courtes maladies ou dans des longues maladies. Et le fait d'avoir un service dédié, ça lui permet d'avoir une écoute, un prénom, un nom à qui discuter vis-à-vis de toutes les tâches administratives qui en découlent.
Oui, mais vous voyez la critique qu'on fait à l'externalisation sans cesse d'une partie des activités RH. Par exemple, quand vous mettez en place un numéro vert, vous dites, moi, si j'ai un problème dans mon entreprise, je mets en place un numéro vert, les salariés appellent. Et c'est pas mon problème. Alors, est-ce qu'il peut pas y avoir cette vision-là dans l'externalisation de l'absence ?
Justement, nous, on n'est pas du tout sur ce modèle-là. On est vraiment sur une thématique. L'externalisation, c'est l'humain au service des humains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les salariés de nos clients appellent le service Layton, il y a un prénom et pas un numéro vert. Il y a un traitement qui s'opère dans les 24 heures au profit du salarié pour pas le laisser dans la panade vis-à-vis de la situation dans laquelle
il est. Et vous connaissez son service, son poste ?
On connaît tout. On a tout. On a accès au service RH de nos clients. On connaît son ancienneté, son historique d'absence, puisqu'on est là souvent depuis plusieurs années. Ce qui permet de rebondir sur ces questions et d'être proactif pour son bien-être.
Et quel est le lien avec le manager direct ? L'intermédiaire, vous...
Nous, on informe chaque manager direct de ce qui se passe avec le salarié, ce qui permet une redescente d'informations souvent immédiate, ce que les services RH ne peuvent pas forcément faire vis-à-vis des obligations quotidiennes qu'ils ont.
Merci beaucoup Julien Vernet d'avoir été avec nous, directeur du conseil chez Layton. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.